22 novembre 1983, théologie fondamentale, Père Marie-Dominique Philippe, Rimont.
Le geste humain a une signification naturelle. Alors vous voyez bien comment le geste humain a une signification naturelle et comment ça reposerait sur le point de vue de l'âme qui donne au corps son intelligibilité. Et donc, le prolongement du corps, c'est le point de vue du geste. Il y a un prolongement du corps dans le geste et l'intelligibilité du geste. Donc sa signification provient de l'âme. Et ceci est naturel, le lien de l'âme et le lien de l'âme et du corps est une chose naturelle. Donc la philosophie du corps et la philosophie du geste proviennent fondamentalement de l'union de l'âme et du corps. Et c'est intéressant à noter que toute signification du geste va donc provenir de la manière dont on conçoit les liens entre le corps et l'âme. Dans une perspective platonicienne, on conçoit le corps indépendamment de l'âme. Dans une perspective aristotélicienne, on conçoit le corps comme lié à l'âme. Dans la perspective de la phénoménologie, qui est sous l'emprise du néoplatonisme, on conçoit le corps comme séparé de l'âme. Et on peut parler de la corporité indépendamment de l'âme. Oui. Alors qu'il faut au contraire parler de la corporité, il y a pas, on ne peut pas parler de la corporité, ce par quoi le corps est corps, voyez, ce par quoi le geste est geste. La gestualité. Ce serait quelque chose de tout à fait particulier. Ce par quoi le geste est geste, ce qui serait la manière dont le geste prend toute sa signification. En réalité, le corps a sa signification par l'âme, et le geste a sa signification par l'âme. Une signification naturelle, en vue des biens de l'âme, puisque le corps est ordonné à l'âme. Donc le corps est ordonné, le corps est finalisé par l'âme. Donc les gestes sont ordonnés à l'âme. Vous avez donc des gestes qui ont une signification purement au niveau de la vie végétative. Et ça c'est vrai, ça existe. Il y a des gestes qui sont là pour dire qu'on a faim, qu'on a soif. N'est-ce pas ? Et puis des gestes, on a envie de dormir. Tout le monde comprend. Et quand on a envie des choses d'ordre de la vie végétative comme telle, des appétits de la vie végétative, donc des gestes qui sont ordonnés à l'appétit de la vie végétative, du développement de la vie végétative, il y a des gestes qui sont au niveau de la vie passionnelle. La colère, la douceur, la jouissance. Et puis il y a des gestes qui sont au niveau de la vie intellectuelle. Vous voyez, le hiatus est de plus en plus grand. Entre le geste et la vie végétative, il y a un lien naturel. De sorte que là, au fond, les gestes sont naturels. Le lien entre le geste et la vie passionnelle sont déjà plus souples. Ils peuvent intervenir certaines modifications. Et vis-à-vis de la vie intellectuelle, c'est beaucoup plus fort vis-à-vis de la vie spirituelle. C'est là où on peut comprendre l'intervention juridique conventionnelle de la signification des gestes. Mais je crois qu'il n'y a pas de geste conventionnel au niveau de la vie végétative. Il y a des gestes conventionnels au niveau de la vie affective et des gestes conventionnels au niveau de la vie spirituelle. Je crois que ça, nous pouvons l'établir. Ça me semble assez net. Pourquoi? C'est que lorsqu'il s'agit de la vie végétative, tout est déterminé à Donum. La finalité de la vie végétative, c'est la procréation. C'est la finalité propre. Et cette finalité peut être suspendue. Alors à ce moment-là, la vie végétative, c'est le point de vue de l'aliment. C'est sûr, c'est l'aliment. La fête. Festin. C'est le point de vue. Et alors les gestes qui se font en fonction même de ce que représente le point de vue de la détente du repas. Le repas est une liturgie. Hein? Le repas est une liturgie. Tandis que self-service n'est pas une liturgie. N'est-ce pas? C'est la différence entre le repas et le self-service. C'est le service, c'est pas une théorie. Et c'est ce qui fait comprendre comment il ne faut pas supprimer entièrement le repas. Parce que c'est un aspect communautaire dans lequel il y a une certaine liturgie. Mais une liturgie qui est très simple, parce qu'elle n'a pas de gestes tellement institutionnels, c'est avant tout naturel. Lire au réfectoire pendant qu'on mange, voyez, c'est vouloir faire du repas, justement, une liturgie. C'est ennoblir le repas par un point de vue spirituel. Faire un repas amical, c'est ennoblir le repas par l'amitié. Faire un repas familial, c'est ennoblir le repas par le lien de la famille. Tandis que le self-service, c'est uniquement se nourrir. C'est extrêmement déterminé à nous. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est self-service, vous voyez, c'est uniquement. Il n'y a pas les autres interventions. Tandis que le repas familial, le repas amical, le repas politique et le repas liturgique. Vous voyez, il y a différentes manières dont on voit comment on ennoblit le point de vue de la vie végétative par un symbolisme qui est autour et qui fait que les gestes prennent une proportion différente. Et ça, c'est très important de ne qu'à demander aux gens qui ne sont pas habitués du tout de venir à un repas monastique, mais ils sentent toujours un peu... ça leur coupe l'appétit. Hein. Momentanément. Comme toujours, les gestes conventionnels coupent l'appétit momentanément. C'est un transfert, n'est-ce pas? Mais que ça ne dure pas. Si le repas dure assez longtemps, on se rattrape. Et là, c'est le dessert. Et là, c'est à ce moment-là, on voit très bien. Alors qu'au début, il y a nécessairement un certain transfert. Ça ne peut pas être autrement. Donc il y a un certain arrêt. C'est significatif, ça. Et puis ensuite, c'est un transfert, on se retrouve dans la réalité. Mais il faut bien voir comment il y a un ennoblissement de la vie végétative par le point de vue communautaire. Très, très mystérieux, ça. Et c'est important. Alors, les gestes qui accompagnent la vie passionnelle restent des gestes aussi très déterminés. Un homme en colère agit toujours à peu près de la même façon. Toujours. Mais dans tel ou tel contexte, la colère prendra des modalités différentes. Ne se met pas de la même façon en colère un pion, ou un père de famille, ou un curé. Au moment où il officie. C'est ça qu'il faut voir. Au moment où il officie. Parce que là, il y a une transposition alors du geste de la colère en fonction du milieu. Et en fonction du milieu, il y a quelque chose de changé. Le geste n'est plus aussi naturel. Et alors, les gestes par rapport à la vie intellectuelle, par rapport, c'est-à-dire, à notre vie de prière, reste naturel aussi. Il y a quelque chose de naturel dans ce fait de se mettre à genoux. Il y a quelque chose de naturel dans ce fait de faire debout. Il y a quelque chose de naturel dans ce fait d'être assis. Ou de lever les mains. Quand vous voyez ça chez les charismatiques. Dimanche, j'ai prêché à des groupes charismatiques. J'ai observé la liturgie. Parce que ce n'était pas le groupe Emmanuel, c'est un autre groupe conduit par un père jésuite. C'était donc particulièrement intéressant de mieux saisir et de mieux comprendre ce que ça représentait exactement. Et là, on voit très bien, les gestes sont pas entièrement naturels. Mais il y a quelque chose de naturel. Lever les mains vers Dieu, acclamer le Seigneur. Vous voyez, et au fond, ces gestes qui se font comme spontanément, un spontané qui n'est pas un véritable spontané, puisqu'il est à l'intérieur d'un groupe. Et on sent très bien qu'il y a un conventionnel du groupe, un conventionnel charismatique, qui ne se veut pas conventionnel et qui est d'autant plus conventionnel, parce qu'il est charismatique. Vous voyez, et c'est très important d'étudier ces choses-là, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire exactement, de voir la signification de ces gestes, et de voir la part, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, et je reviens là-dessus, parce que je crois que c'est très important, la part de l'aspect naturel et de l'aspect conventionnel. Le geste purement naturel est au niveau de la vie végétative, et comme la vie végétative est assumée par l'humain, au fond, on a très peu de gestes purement naturels. Nous avons été éduqués même dans nos gestes. Ça, c'est sûr. Alors, il y a des gens qui ont été rébarbatifs à l'éducation quant à leurs gestes, pour essayer de garder un geste naturel, et essayer de garder ce geste le plus naturel qui soit. Et ça se voit tout de suite. Et puis, il y a des gens qui ont été très éduqués dans leurs gestes, et ça met très longtemps avant de disparaître. Mais, parce qu'il y a un aspect conventionnel. Ça ne se fait pas. Oui, manger à table de telle ou telle manière, ça ne se fait pas. Alors, tu vas prendre des fourchettes et des cuillères. C'est conventionnel, hein, prendre ces outils. Alors qu'au fond, nous avons des mains qui sont bien plus souples que des cuillères et des fourchettes. Alors, de fait, ça ne se fait pas, prendre les choses par la main. Alors, on fait intervenir. Je prends ça l'exemple le plus simple, vous voyez. Le plus simple, mais prenez pour la prière, c'est la même chose. Les gens, il y a un aspect conventionnel dans la prière. Et cet aspect conventionnel peut arrêter la vraie prière, qui demanderait d'être la plus spontanée qui soit, la plus vraie qui soit. Parce qu'au fond, où on est le plus vrai, c'est en face de Dieu. Or, les gestes qui correspondraient à ça devraient être les plus naturels qui soient. Les gestes liturgiques, ce sont les gestes qui devraient être plus naturels. Dieu a horreur du sang et des boucs, du taureau et des boucs, c'est parce que Dieu n'aime pas que le conventionnel passe devant le naturel. Et c'est pour ça qu'il en a horreur. Devant tout geste conventionnel, Dieu a horreur du conventionnel pur, quand il s'agit de la prière. Oui, parce que le geste doit être naturel. Alors, à partir de là, il ne s'agit pas de dire, dès qu'on est en communauté, il y a un conventionnel. Mais il y a un conventionnel naturel. Parce que la communauté est un phénomène naturel. Et quand il s'agit d'une communauté religieuse et d'une communauté chrétienne, la communauté est divine. Et donc, le conventionnel qui intervient dans une communauté n'est pas nécessairement conventionnel. Mais comme c'est difficile à analyser, il n'est pas nécessairement conventionnel. Et il y a nécessairement quelque chose qui provient d'institutions divines. Les gestes du prêtre qui dit la messe sont des gestes qui sont imposés. Ils ne sont pas conventionnels, puisqu'ils sont imposés par Dieu, par l'autorité divine. Donc ils ne sont pas conventionnels au sens absolu. Quand certains disent « je dois, moi, être libre dans ma messe, parce que c'est un acte le plus personnel qui soit de ma vie, et donc il doit être absolument libre. Il doit pouvoir être dans la créativité la plus absolue. Et donc chaque fois, chaque messe, je dois pouvoir tout réinventer. » Il oublie qu'il s'agit d'un conventionnel, il s'agit d'une institution divine, et l'institution divine n'est pas conventionnelle. L'institution divine, dans la mesure même où c'est dit au sacrement et l'enseignement de l'Église, ce n'est pas du conventionnel. C'est une autorité divine qui me dirige et qui me fait comprendre que, de fait, il y a à prier de telle manière à cause des sacrements. Les sacrements impliquent des rites. Les sacrements impliquent donc une liturgie. Cette liturgie implique des gestes. Et cette liturgie étant divine, n'est pas conventionnelle. Elle peut être modifiée. Alors elle peut, hein, n'oublions pas, quand je dis elle peut très bien, voyez, tomber dans un aspect de sclérose. Vous voyez, on allume deux bougies au début de la messe. Pourquoi? Ah, j'en sais rien, on a toujours allumé deux bougies. On doit bougie, allumer deux bougies. Vous mettez à genoux au début de la messe. Pourquoi? Ah, j'en sais rien. L'enfant de cœur, demandez un petit enfant de cœur. J'en sais rien, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Alors là, le geste est conventionnel. Parce qu'on lui a appris ça, on ne lui a pas expliqué. On ne lui a pas fait comprendre la signification. Si on lui fait comprendre la signification, le geste perd du conventionnel et devient une liturgie. Une vraie liturgie ne devrait avoir de rien de conventionnel. Elle devrait être la liturgie d'une communauté. Et c'est pour ça que chaque communauté doit avoir sa liturgie, au sens très très fort. Sa liturgie propre, qui exprime l'âme profonde de la communauté. Vous voyez, l'âme profonde de la communauté est exprimée par la liturgie. Et elle doit s'exprimer alors d'une façon qui soit, je ne dis pas spontanée, parce que c'est communautaire, mais selon un aspect qui relève d'une communauté priante, d'une communauté religieuse, d'une communauté chrétienne. Et pour une communauté chrétienne, toute la liturgie est commandée par la messe. Et donc d'une liturgie qui soit eucharistique. Et il y a autour de l'Eucharistie une liturgie qui est propre à l'Eucharistie. Alors cet aspect institutionnel, hein, comprenons bien, quand je dis n'est pas conventionnel, ça dépend comment vous l'entendez. Si je prends la division naturelle conventionnelle en disant est conventionnel tout ce qui n'est pas naturel, alors l'aspect institutionnel est conventionnel. Si je dis conventionnel comme ce qui n'est pas finalisé, vous voyez, c'est difficile à préciser, hein, et il faut préciser, parce qu'autrement on aboutira à des confusions. Or, nous essayons d'entrer progressivement dans ce que représente la sacramentalité. Vous voyez bien, on s'y approche. On s'y approche. On regarde le geste. On a vu que le geste impliquait une signification naturelle. Et parce que c'est une signification naturelle, c'est une signification affective. Et une signification qui est à la fois une universalité beaucoup plus grande et en même temps quelque chose de beaucoup plus personnel. Il s'agit maintenant de comprendre le passage du naturel au conventionnel. Alors, en gros, cette première opposition, c'est cette première opposition, ce qui est naturel est déterminé à nous, comme disent les anciens. Ce qui est naturel est déterminé à nous. Donc il y a des gestes naturels, et les gestes naturels sont déterminés à nous en fonction de la finalité. En fonction de la finalité. Et ils ont leur signification naturelle. Je n'ai pas besoin de l'apprendre. La signification est donnée, spontanément. Donc, ici, les gestes ont leur signification déterminée de nous en fonction de la finalité. Et la finalité, vous voyez, alors les trois finalités, hein, je prends. N'oubliez pas, les trois finalités, j'ai dit tout à l'heure. La finalité de la végétative, la finalité de la animale, la vie. La finalité de la vie spirituelle. Parce qu'au fond, ces gestes sont toujours en fonction de ça. Alors, conventionnel s'oppose à naturel. Si le conventionnel s'oppose à naturel comme étant quelque chose qui vient s'ajouter d'une manière purement extérieure, il y a un conventionnel qui est purement extérieur, qui provient tout simplement d'une communauté, qui a ses lois, qui a sa manière d'être. Alors ça s'impose surtout au niveau des repas. Des repas communautaires. Il y a une liturgie des repas communautaires. Il y a une manière de se tenir dans un repas tel milieu dans lequel on est. Une liturgie, donc, au niveau des repas, au niveau du travail, qui sera un travail en commun, au niveau des conversations, et ainsi de suite. Vous avez donc tout un aspect de signes qui viennent accompagner cette séjour, et en fonction de la communauté dans laquelle vous êtes, il y aura quelque chose de conventionnel. Ici, on ne fait pas telle chose, on vous dira. Ici, vous ne prenez pas votre chien à côté de vous pendant votre repas. Ici, vous ne prenez pas votre cigarette pendant votre repas. Ici, vous n'avez ainsi de suite. Des tas de choses comme ça. Et ainsi de suite. Vous voyez, des tas de choses qui sont là, conventionnelles. C'est vraiment conventionnel. Pourquoi pas avoir mon chien à côté de moi? Et pourquoi pas fumer quand ça m'est agréable, C'est conventionnel. C'est en fonction de la communauté. C'est qu'à côté de vous, vous avez quelqu'un qui ne peut pas supporter l'odeur de la fumée. Il aurait dû donner ça. Il ne peut pas supporter le chien avec un. Donc, on ne va pas. Donc, alors, c'est conventionnel en fonction de la communauté du tout. Du tout communautaire. Le tout communautaire n'est pas la finalité. C'est là où l'aspect conventionnel va arriver. À tel moment, en fonction de ce tout, on a impliqué telle chose, et puis c'est resté, c'est devenu des ornières. On a répété, on a continué de dire ça. Alors on dira la tradition. Vous êtes déjà cité, ce fait, en Algérie. Vous voyez les femmes revenir la cueillette et les hommes, pendant toute la journée, avaient pris leur café. Je demande à l'homme de prière comment se fait-il que toutes les femmes travaillent et que les hommes, pendant ce temps-là, prennent le café. C'est des gestes, hein, le travail. Le travail au café, le travail aux choses, c'est des gestes. Alors il a eu cette parole magnifique pour expliquer la tradition. Alors la tradition, vous voyez, c'est oublié. Ça vous fait comprendre tout de suite la tradition. J'ai demandé. Expliquez-moi pourquoi la tradition. Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication, ça s'est fait toujours comme ça. Mais on n'a pas l'effort de retrouver le point de départ, comment ça s'est fait comme ça. Parce qu'alors, quand vous êtes dans la tradition comme ça et que vous faites appel à la tradition pour la tradition, beaucoup de gens font appel à la tradition pour la tradition. Ça devient des ornières. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, c'est des ornières. Parce que la tradition ne finalise pas. La tradition est pour la finalité. Et la tradition comme telle ne donne pas la signification des choses. L'homme n'est pas défini par la tradition. L'homme est défini en vue d'atteindre sa fin. Alors il y a des traditions excellentes, mais justement les traditions sont bonnes dans la mesure où vous comprenez leur finalité. Le jour où vous ne comprenez plus la finalité d'une tradition, vous la répétez uniquement pour la répéter, si vous êtes gosse, c'est normal. Si vous êtes gosse jusqu'à la fin de votre vie, c'est normal. Soyez dans la tradition, vous ferez moins de bêtises. N'est-ce pas ? Mais si vous êtes arrivé à un âge où vous êtes capable de comprendre, vous n'avez pas le droit de prendre comme raison la tradition. Prendre comme raison la tradition, c'est prendre la dernière des raisons humaines. Comme dit saint Thomas, c'est l'opinion des hommes. Si vénérable qu'il soit. Je ne parle pas de la tradition divine, hein, prenons attention. Je parle ici de la tradition religieuse, des traditions religieuses. La tradition chrétienne est liée à des traditions religieuses, elle est liée à des traditions religieuses, elle est liée à des traditions familiales, et elle doit tout le temps se renouveler par la foi. Elle doit être tout le temps renouvelée par la foi. Le jour où elle n'est pas renouvelée par la foi et qu'on ne sait plus pourquoi, je connais quelqu'un qui est très très spécialiste dans l'Inde, dans les liturgies indiennes, et qui a fait un livre là-dessus, qui reste très intéressant, sur la liturgie et les gestes. Elle a été là-bas, elle a vécu là-bas longtemps, et elle me disait qu'elle avait interrogé énormément partout pour savoir la signification des gestes. On ne le savait plus. Alors, il y a toujours ces gestes. Il a toujours fait ces gestes. Pourquoi on met le doigt de la main comme ça, hein? On fait ces gestes. On ne sait pas pourquoi. Interroger tout le temps, hein, pour essayer de comprendre le pourquoi. Et n'arrivait plus à savoir. Et ça, c'est une tradition sclérosée. Hein? C'est ça, une tradition sclérosée. Alors à ce moment-là, la tradition devient un poids. Elle n'aide plus. Elle n'est plus un tremplin en vue de la finalité. Vous voyez, comme quoi, c'est très curieux, parce que les traditions impliquent les gestes. Hein. Ce n'est pas uniquement la parole. Ça implique des gestes liturgiques. Alors, la tradition, quand elle est sclérosée, devient purement conventionnelle. Ça, c'est très bien. Elle se formalise parce qu'elle n'est plus liée à la fin. Elle n'a plus sa signification. Et elle n'a plus de signification. Alors, elle est liée. Alors, elle devient purement conventionnelle. Et elle devient quelque chose qui a le revenu. Alors, le conventionnel, à ce moment-là, vous voyez, devient quelque chose qui a le revenu et qui matérialise. Ça matérialise. Tandis qu'il peut y avoir un conventionnel qui est, alors lui, pleinement lié à la finalité. Il est lié à une institution. Alors, surtout quand il s'agit, hein, ici, du point de vue surnaturel. L'institution des sacrements, l'institution des sacrements étant divine, et selon le concile de Trente, on doit dire que l'institution des sacrements est de droit divin et rattachée directement au Christ. Donc, c'est vraiment lié au Christ, grand prêtre, législateur. Jésus, grand prêtre, législateur, invente des institutions. Ces institutions viennent de l'extérieur, par rapport au naturel. C'est pas du naturel, c'est du surnaturel. Ça vient d'extérieur. Mais est-ce que c'est encore du conventionnel? Oui. C'est du conventionnel dans la mesure où ça vient d'extérieur. Mais c'est plus du conventionnel dans la mesure où c'est finalisé. C'est une surnature. Quand on dit surnature, justement, on veut supprimer le conventionnel. Le surnaturel n'est pas conventionnel, parce qu'il repose sur une réalité profonde qui a sa finalité propre. Vu de l'extérieur, hein, vu de l'extérieur, ça pourra très bien paraître comme du conventionnel. Mais vu de l'intérieur, si c'est vécu de l'intérieur, hein, si c'est vécu de l'intérieur, alors c'est vécu au niveau de l'institutionnel comme impliquant une finalité. C'est très important ça, vous savez, c'est très important parce que c'est la fameuse chose que le père Congar avait fait à propos de l'Église, en disant dans l'Église, il faut toujours distinguer le point de vue de la vie et le point de vue institutionnel. Et vous voyez, c'est une fausse distinction. L'institutionnel, c'était l'artificiel, ce qui venait s'ajouter. Alors, je ne peux pas faire cette distinction-là. L'institutionnel dans l'Église fait partie de la vie de l'Église. Parce que c'est finalisé. Tout ce qui est finalisé fait partie de la vie. Ce qui n'est pas finalisé, qui vient s'ajouter au-dessus pour formaliser, ah, alors là c'est autre chose, c'est du conventionnel. Mais, qui peut être du juridique, parce que ça a pu y avoir des lois qui ont établi ça, des lois très très respectables qui ont établi ça, ça devient du juridique. Vous voyez, je prends un exemple très concret. Par exemple, s'attacher au latin. C'est du juridique. Puisque à un moment donné, l'Église a demandé. Donc dire la messe en latin, c'était obligatoire. Ça faisait partie de l'institution et il y avait une loi qui établit ça. Et puis 5 a établi une loi. Donc ça devient du juridique. Alors, vouloir à tout prix tenir cela, Quand l'Église dit non, il vaut mieux aujourd'hui, étant donné la finalité du sacrement, comprendre que la messe peut être dite dans des langues vulgaires. C'est en vertu de la finalité. Si on maintient à tout prix l'aspect, on peut dire, moi j'aime mieux, ça c'est autre chose, hein, ça c'est tout à fait différent. J'aime mieux, très bien, vous aimez mieux, tant mieux. Ça fait partie des goûts et des couleurs. Bon, j'aime mieux cela, j'étais habitué à cela, je suis dérouté quand je suis plus là. Très bien, ça fait partie de vos habitudes. Bon, c'est pas... Mais dire à partir de là, ah non, c'est faux, c'est tout simplement le conventionnel. On a fait de l'institution surnaturelle et du légal, du juriste. Or, de fait, l'institution est laissée au droit suprême du pape. L'autorité suprême peut changer les institutions. Il y a un article très beau de saint Thomas là-dessus, il faudrait relire souvent. Il faudrait faire relire ça à ceux qui sont fixés sur du point de vue purement conventionnel. Faire comprendre que l'autorité du pape, elle regarde au point de vue de l'institution, pour que toujours les institutions soient finalisées. Parce que les institutions ont par elles-mêmes un poids très lourd de se formaliser. C'est le propre d'une institution. C'est de se formaliser. Il faut que les institutions soient tout le temps finalisées. Pour qu'elles soient au service de la vie et qu'elles soient pleinement au service de la vie. Et le renouveau de l'Église, c'est bien cela. C'est au niveau de l'institution qui doit être parfaitement finalisée. Et entièrement finalisée. Et il peut très bien se faire un renouveau qui est factice, qui est tout simplement, vous avez jusque maintenant, votre tenue était de telle couleur, on va changer de couleur. Ça, c'est factice. Parce que la finalité n'est pas présente. Tandis que le renouveau se fait par le retour à la finalité. Et alors à ce moment-là, l'institution reprend son véritable sens. L'institution chrétienne n'est pas quelque chose de factice. L'institution chrétienne est une institution de vie, comme nous le verrons. C'est le propre des sacrements. Les sacrements sont source de vie, donc ce n'est pas quelque chose de conventionnel. C'est surnaturel. Ça peut apparaître comme conventionnel de l'extérieur, mais pour le croyant, c'est surnaturel. Et l'institution de l'Église, elle est surnaturelle. Elle est une institution en vue de la vie. Donc, elle va impliquer nécessairement une signification nouvelle au geste. Elle va donner au geste naturel une signification nouvelle. Une signification qui sera surnaturelle, qui sera liturgique, qui sera institutionnel. Je vous dis, c'est très important parce que nous devons réfléchir à tout ça aujourd'hui. Hein. Nous devons réfléchir à tout ça parce que nous aurons des personnes qui seront figées dans des institutions ou des personnes qui feront juste l'inverse, qui supprimeront toutes les institutions. Tout ce qui est institutionnel et mauvais, c'est conventionnel. Ah non, l'institution au point de vue chrétien n'est pas conventionnelle. Elle est une institution divine. Mais cette institution divine peut être modifiée dans son exercice par une autorité divine et l'autorité suprême de l'Église. Donc, vous voyez le problème. Hein, on va essayer de préciser encore. Hein, parce qu'il faut aller de plus en plus à préciser. Parce que c'est pour ça que je prends exprès naturel, conventionnel, institutionnel. Mais l'institution divine, bon, parce que déjà, au point de vue humain, on pourrait faire des distinctions analogues. Hein, parce que tout conventionnel n'est pas toujours artificiel. Il y a un conventionnel qui peut être entièrement finalisé. Mais c'est rare. C'est très rare. Très très vite, le conventionnel se formalise. Très très vite. Il se formalise et perd le sens. Il faudrait que ce soit toujours des êtres très vivants qui le vivent. Alors à ce moment-là, eux-mêmes le transforment. Vous voyez ? On aurait la même chose pour la vie religieuse. La vie religieuse, c'est l'aspect communautaire ou l'aspect ermite, hein, parce que c'est des deux côtés. Il y a l'aspect ermite, l'aspect communautaire. Des deux côtés, il y a nécessairement quelque chose de conventionnel. Ça ne peut pas être autrement. Vivre avec un règlement de vie. Le règlement de vie fait qu'on se lève tous à même heure. C'est complètement idiot. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués, des gens qui ne sont pas fatigués. Alors, vu de l'extérieur, c'est complètement stupide de faire lever tout le monde à la même heure. Au nom de quoi? Et pourquoi lever tout le monde à la même heure? Ça vous amuse de faire lever tout le monde à la même heure? Pour montrer que la communauté est une et indivisible. Tout le monde se lève à la même heure. C'est conventionnel, se lever à la même heure. Se lever, si encore c'était l'heure du soleil, ça pourrait y avoir une signification naturelle. Alors on se leverait à l'heure du soleil, ça changerait tous les jours d'une petite minute. Et alors, à ce moment-là, il n'y a pas de danger de ça. Tandis que là, oui, horaire d'été, horaire d'hiver, à la rigueur, il y aurait deux horaires. Mais c'est conventionnel, c'est vrai, il faut accepter. Un règlement de vie est conventionnel. Pourquoi qu'on mange toujours à la même heure, à midi? Il y a des jours où on a faim, des jours où on n'a pas faim. Il veut toujours se lever. Il y a quelque chose de conventionnel. Dès qu'il y a une communauté, il y a quelque chose de conventionnel. Ce conventionnel, c'est pourquoi? C'est à cause du tout. Je crois que c'est à cause du tout. C'est-à-dire à cause du bien commun. Après, il intervient quelque chose de nouveau, le bien commun, qui est une certaine finalité à l'égard du tout. Et donc le conventionnel pour le bien commun va permettre justement que la communauté puisse tendre vers ce bien commun. Et alors à ce moment-là, le conventionnel n'est plus artificiel. Il est conventionnel, oui, il faut l'accepter. Il est même du légal quelquefois. Mais il y a le bien commun. Il y a la dimension du bien commun. Et la dimension du bien commun n'est pas la fidélité personnelle. C'est parce que de fait, dès qu'on vit en commun, il y a un certain bien commun qu'il faut respecter. Et en fonction de ce bien commun, il y a des gestes particuliers, il y a des attitudes particulières qui impliquent ce point de vue-là. Donc, vous voyez, il y a le conventionnel à l'égard du bien commun qui n'est pas artificiel. Mais il y a un conventionnel artificiel quand il n'est plus à l'égard du bien commun. On a toujours fait ça, continuons de le faire. Est-ce que c'est bien comme avant? Ah, ça n'a pas d'importance, on a toujours fait comme ça. Alors là, il devient artificiel. Et le conventionnel peut devenir artificiel quand il perd son lien avec la finalité. Alors, ce conventionnel, au niveau surnaturel, implique une institution. Mais la vie commune, vous voyez, la vie commune n'est pas surnaturelle. C'est bien évident que la vie commune n'est pas surnaturelle. La vie commune, elle est liée à la famille, elle est liée à la vie religieuse. Alors, la famille et la vie religieuse sont toutes les deux des choses naturelles. Donc, ce n'est pas surnaturel, la vie commune, pas du tout. Comme la vie solitaire, elle n'est pas non plus surnaturelle. Elle est naturelle, parce qu'il y a diverses manières de vivre. En famille, en communauté religieuse, en communauté de travailleurs, ou isolé. Diverses manières de vivre. Au point de vue humain, ça a toujours été comme ça. Donc, à partir de là, il y a des conventions qui s'établissent. Ça ne peut pas être autrement. Ces conventions sont bonnes dans l'avenir où elles permettent le bien commun. Ces conventions deviennent artificielles dans la mesure où elles ne touchent plus le bien commun. Où elles s'imposent de l'extérieur. Uniquement de façon artificielle. Ces conventions peuvent être assumées par la foi surnaturelle. Alors, on devient une communauté chrétienne, une communauté religieuse chrétienne. On devient des ermites chrétiens. On devient des solitaires chrétiens. Oui. Tout est assumé par le point de vue de la foi, alors, les institutions. Et l'institution qui commande toute l'Église et qui commande toute communauté, c'est l'Eucharistie. C'est l'institution par excellence. C'est l'institution qui donne la raison à toutes les autres institutions. L'Eucharistie va être liée tout de suite à une liturgie particulière. Il y a des gestes particuliers. qui sont autour de l'Eucharistie. Et c'est une liturgie qui vient bien de l'institution divine, du Christ. C'est une liturgie donc qui implique quelque chose de conventionnel, mais c'est conventionnel surnaturel. Et ce surnaturel assume un conventionnel humain qui est religieux. Donc vous voyez, si je fais un petit peu l'analyse de ça, c'est pour essayer de comprendre qu'il y a des niveaux différents d'intelligibilité de la signification des gestes. Alors, je résume, pour essayer de comprendre. Si j'en oublie, vous me le direz. Vous voyez le geste. Le geste a sa signification naturelle. C'est la première chose qu'il faut montrer. À la différence de la parole. Le geste, là, j'oppose, je distingue, le geste de parole. Aucune parole n'a une signification naturelle. Tandis qu'il y a des gestes qui ont une signification naturelle. Il y a une signification naturelle qui s'impose. Deuxièmement, premier niveau. Deuxième niveau, une signification conventionnelle qui vient s'ajouter à cette signification naturelle. Ce conventionnel apparaît dans la communauté. Je crois qu'il n'y aurait pas de conventionnel autrement. Je ne crois pas. Quelqu'un qui vivrait à l'état solitaire, sauvage, je ne crois pas qu'il y ait de conventionnel. Dès qu'il fréquenterait autre chose, j'irais du conventionnel, oui. Alors, mais je prends à l'état tout à fait pur. Hein. Donc dès qu'il y a communauté, il y a un conventionnel. Un conventionnel qui est au niveau du bien commun, qui est au niveau de la communauté, donc qui est au niveau du bien commun. Ce conventionnel reste vrai dans la mesure où il est parvenu au bien commun. Alors, la signification des gestes, c'est par rapport au bien commun. Donc, ce conventionnel peut se corrompre et devenir artificiel. Alors, à ce moment-là, il se formalise et n'est plus lié à la fin. Alors, il y a une multiple façon de se formaliser. Donc, ici, troisième signification qui est l'antithèse. Hein. C'est un faux conventionnel, c'est un artificiel. Alors vous avez troisième niveau, cette signification peut devenir une signification surnaturelle. C'est du conventionnel surnaturel, c'est-à-dire c'est un surnaturel qui assume le conventionnel. Ce surnaturel peut exister au niveau communautaire, peut exister au niveau personnel. Alors, le surnaturel peut lui aussi se corrompre et perdre sa signification surnaturelle et retomber dans un point de vue artificiel et une formalisation. Je crois que ce sont les trois niveaux. Vous voyez, qui serait le niveau naturel, j'allais presque dire le niveau politique, et le niveau proprement surnaturel. Parce qu'au niveau politique, il y a le niveau religieux. Le niveau religieux est à l'intérieur du niveau politique. Je crois qu'il y a les trois niveaux de signification du geste. Vous voyez, quand il s'agit de regarder la signification d'un geste chrétien, il faut regarder l'institution, il faut regarder le point de vue de la communauté, il faut regarder l'enracinement naturel. Trois niveaux. C'est intéressant parce que ça m'aide à comprendre. Hein. Le point de vue surnaturel implique le point de vue institution. Institution divine. Hein. Et ce point de vue institution assume le point de vue politique conventionnel humain et assume le point de vue naturel. Vous voyez, quand saint Augustin dit à propos du sacrement « Verbum ad elementum fit sacramentum »« Verbum » l'institution « Ad elementum » naturel « fit sacramentum » il y a un télescopage de la dimension 2. Parce que le sacrement implique une dimension communautaire. Alors, cette dimension communautaire peut être donnée par le point de vue du verbum, c'est vrai, l'institution. Mais l'institution assume le point de vue communautaire humain et est liée au moyen naturel, elemental. Je prends cet exemple-là, hein. Ce serait intéressant de voir ça. On le fera, on essaiera de comprendre ça. Parce qu'il s'agit de repenser le point de vue de la sacramentalité. Il s'agit de repenser ça, c'était le point de vue, point de départ. Il s'agit de comprendre cela. Je vois maintenant qu'il y a parole et geste. Nous avons fait ça jusque maintenant. Nous avons vu parole divine, geste divin. Parole, sa signification conventionnelle, le geste, signification naturelle, mais une signification naturelle qui peut être augmentée par une signification institutionnelle et conventionnelle. Nous allons donc, maintenant que nous avons les deux aspects, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les sacrements. Oui. On est à pied d'œuvre une fois qu'on a ça. On est à pied d'œuvre. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est que les sacrements. Les sacrements chrétiens. Et après, c'est le résultat, on regardera qu'est-ce que c'est que la liturgie chrétienne. Mais je crois qu'il faut regarder d'abord les sacrements. Parce que les sacrements, c'est une chose plus facile à comprendre. Et alors, en fonction des sacrements, on pourra comprendre la liturgie.